Chapitre 11. Les méprises. Quand vint le tour de Saint-Guilain, il jeta 3 dés sur la table. Ensuite, il regarda le diable et lui dit d'un air très malin : Jouons donc cette vieille femme. Qui de nous deux aura son âme ? Ancienne légende. Pour paraître devant le roi, Saint-Mars avait été forcé de monter le cheval d'un de ses chevaux légers blessé dans l'affaire, ayant perdu le sien au pied du rempart. Pendant l'espace de temps assez long qu'exigea la sortie des deux compagnies, il se sentit frappé sur l'épaule et vit, en se retournant, le vieux Grandchamp tenant en main un cheval gris fort beau. « Monsieur le marquis veut-il bien monter un cheval qui lui appartienne ? » dit-il. « Je lui ai mis la selle et la housse de velours brodée en or qui étaient restées dans le fossé. Hélas, mon Dieu, quand je pense qu'un Espagnol aurait fort bien pu la prendre, ou même un Français. Car, dans ce temps-ci, il y a tant de gens qui prennent tout ce qu'ils trouvent comme leur appartenant, et puis, comme dit le proverbe, ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat. Ils auraient pu prendre aussi, quand j'y pense, ces 400 écus en or que monsieur le marquis, soit dit sans reproche, avait oublié dans les fontes de ses pistolets. Et les pistolets, quels pistolets ! Je les avais achetés en Allemagne, et les voici encore aussi bons, et avec une détente aussi parfaite que dans ce temps-là. C'était bien assez d'avoir fait tuer le pauvre petit cheval noir qui était né en Angleterre, aussi vrai que je le suis à Tours en Touraine. Fallait-il encore exposer des objets précieux à passer en l'ennemi ? Tout en faisant ses doléances, ce brave homme achevait de sceller le cheval gris. La colonne était longue à défiler et, ralentissant ses mouvements, il fit une attention scrupuleuse à la longueur des sangles et aux ardillons de chaque boucle de la selle, se donnant par là le temps de continuer ses discours. « Je vous demande bien pardon, monsieur, si je suis un peu long. C'est que je me suis foulé tant soit peu le bras en relevant monsieur de Toux, qui lui-même relevait monsieur le marquis pendant la grande culbute. « Comment, tu es venu là, vieux fou ? » dit Saint-Mars. « Ce n'est pas ton métier, je t'ai dit de rester au camp. » « Oh, quant à ce qui est de rester au camp, c'est différent. Je ne sais pas rester là. Et quand il se tire un coup de mousquet, je serais malade si je n'en voyais pas la lumière. Pour mon métier, c'est bien le mien d'avoir soin de vos chevaux, et vous êtes dessus, monsieur. Croyez-vous que, si je l'avais pu, je n'aurais pas sauvé les jours de cette pauvre petite bête noire qui est là-bas dans le fossé ? Ah, comme je l'aimais, monsieur ! Un cheval qui a gagné 3 prix de course dans sa vie. Quand j'y pense, cette vie-là a été trop courte pour tous ceux qui savaient l'aimer comme moi. Il ne se laissait donner l'avoine que par son grand champ, et il me caressait avec sa tête dans ce moment-là. Et la preuve, c'est le bout de l'oreille gauche qu'il m'a emporté un jour, ce pauvre ami. Mais ce n'était pas qu'il voulut me faire du mal, au contraire. Il fallait voir comme il hennissait de colère quand un autre l'approchait. Il a cassé la jambe à Jean à cause de cela, ce bon animal. Je l'aimais tant. Aussi, quand il est tombé, je le soutenais d'une main, monsieur de Locmaria de l'autre. J'ai bien cru d'abord que lui et ce monsieur allaient se relever, mais malheureusement, il n'y en a qu'un qui soit revenu en vie, et c'était celui que je connaissais le moins. « Vous avez l'air d'en rire de ce que je dis sur votre cheval, monsieur, mais vous oubliez qu'en temps de guerre, le cheval est l'âme du cavalier ? Oui, monsieur, son âme. Car qui est-ce qui épouvante l'infanterie ? C'est le cheval. Ce n'est certainement pas l'homme qui, une fois lancé, n'y fait guère plus qu'une botte de foin. Qui est-ce qui fait bien des actions qu'on admire ? C'est encore le cheval. Et quelquefois, son maître voudrait être bien loin, qu'il se trouve malgré lui victorieux et récompensé, tandis que le pauvre animal n'y gagne que des coups. Qui est-ce qui gagne des prix à la course ? C'est le cheval, qui ne soupe guère mieux qu'à l'ordinaire, tandis que son maître met l'or dans sa poche. Et il est envié de ses amis et considéré de tous les seigneurs comme s'il avait couru lui-même. « Qui est-ce qui chasse le chevreuil et qui n'en met pas un pauvre petit morceau sous sa dent ? C'est encore le cheval. Tandis qu'il arrive quelquefois qu'on le mange lui-même, ce pauvre animal. Et dans une campagne avec monsieur le maréchal, il m'est arrivé... Mais qu'avez-vous donc, monsieur le marquis ? Vous pâlissez ? Serre-moi la jambe avec quelque chose, un mouchoir, une courroie, ou ce que tu voudras, car j'y sens une douleur brûlante. Je ne sais ce que c'est. Votre botte est coupée, monsieur, et ce pourrait bien être quelques balles. Mais le plomb est l'ami de l'homme. Il me fait cependant bien mal. Ah, qui aime bien, châtie bien, monsieur. Ah, le plomb, il ne faut pas dire du mal du plomb. Qui est-ce qui... Tout en s'occupant de lier la jambe de Saint-Marc au-dessous du genou, le bonhomme allait commencer l'apologie du plomb aussi sottement qu'il avait fait celle du cheval, quand il fut forcé, ainsi que son maître, de prêter l'oreille à une dispute vive et bruyante entre plusieurs soldats suisses restés très près d'eux après le départ de toutes les troupes. Ils se parlaient en gesticulant beaucoup et semblaient s'occuper de deux hommes que l'on voyait au milieu de 30 soldats environ. Défiat, tendant toujours son pied à son domestique et appuyé sur la selle de son cheval, chercha, en écoutant attentivement, à comprendre leurs paroles. Mais il ignorait absolument l'allemand et ne put rien deviner de leur querelle. Grandchamp tenait toujours sa botte et écoutait aussi très sérieusement, et tout à coup se mit à rire de bon cœur, se tenant les côtes, ce qu'on ne lui avait jamais vu faire. « Ah ah, monsieur, voilà deux sergents qui se disputent pour savoir lequel on doit pendre des deux Espagnols qui sont là, car vos camarades rouges ne se sont pas donné la peine de le dire. L'un des Suisses prétend que c'est l'officier, l'autre assure que c'est le soldat, et voilà un troisième qui vient de les mettre d'accord. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit de les pendre tous les deux. « Doucement, doucement !» s'écria Saint-Marc en faisant des efforts pour marcher. Mais il ne put s'appuyer sur sa jambe. « Mets-moi un cheval, Grandchamp !»« Monsieur, vous n'y pensez pas, votre blessure !»« Fais ce que je te dis et monte-y toi-même ensuite !» Le vieux domestique, tout en grondant, obéit et courut, d'après un autre ordre très absolu, arrêter les Suisses, déjà dans la plaine, prêts à suspendre leurs prisonniers à un arbre, ou plutôt à les laisser s'y attacher. Car l'officier, avec le sang-froid de son énergique nation, avait passé lui-même autour de son cou le nœud coulant d'une corde et monté, sans en être prié, à une petite échelle appliquée à l'arbre pour y nouer l'autre bout. Le soldat, avec le même calme insouciant, regardait les Suisses se disputer autour de lui et tenait l'échelle. Saint-Marc arriva à temps pour les sauver, se nomma au bas-officier suisse et, prenant Grandchamp pour interprète, dit que ses deux prisonniers étaient à lui et qu'il allait les faire conduire à sa tente, qu'il était capitaine aux gardes et s'en rendait responsable. L'Allemand, toujours discipliné, n'osa répliquer. Il n'y eut de résistance que de la part du prisonnier. L'officier, encore au haut de l'échelle, se retourna et, parlant de là comme d'une chair, dit avec un rire sardonique. « Je voudrais bien savoir ce que tu viens faire ici. Qui t'a dit que j'aime à vivre ?»« Je ne m'en informe pas, » dit Saint-Marc. « Peu m'importe ce que vous deviendrez après. Je veux, dans ce moment, empêcher un acte qui me paraît injuste et cruel. Tuez-vous ensuite si vous voulez. » C'est bien dit, reprit l'Espagnol farouche. Tu me plais, toi. J'ai cru d'abord que tu venais faire le généreux pour me forcer d'être reconnaissant, ce que je déteste. Eh bien, je consens à descendre. Mais je te haïrai autant qu'auparavant, parce que tu es français, je t'en préviens, et je ne t'en remercierai pas, car tu ne fais que t'acquitter envers moi. C'est moi-même qui t'ai empêché ce matin d'être tué par ce jeune soldat quand il te mit en joue, et il n'a jamais manqué un isard dans la montagne de Léon. « Soit, » dit Saint-Marc, « descendez. » Il entrait dans son caractère d'être toujours avec les autres tel qu'il se montrait dans leurs relations avec lui, et cette rudesse le rendit fier. « Voilà un fier gaillard, monsieur, » dit Grandchamp. « À votre place, certainement, monsieur le maréchal l'aurait laissé sur son échelle. Allons, Louis, Étienne, Germain, venez garder les prisonniers de monsieur et de les conduire. Voilà une jolie acquisition que nous faisons là. Si cela nous porte bonheur, j'en serais bien étonné. » Saint-Marc, souffrant un peu du mouvement de son cheval, se mit en marche assez lentement pour ne pas dépasser ses hommes à pied. Il suivit de loin la colonne des compagnies qui s'éloignait à la suite du roi et songeait à ce que ce prince pouvait lui vouloir dire. Un rayon d'espoir lui fit voir l'image de Marie de Mantoue dans l'éloignement, et il eut un instant de calme dans les pensées. Mais tout son avenir était dans ce seul mot « plaire au roi ». Et il se mit à réfléchir à tout ce qu'il a d'amer. En ce moment, il vit arriver son ami M. de Toux, qui, inquiet de ce qu'il était resté en arrière, le cherchait dans la plaine et accourait pour le secourir s'il l'eût fallu. « Il est tard, mon ami. La nuit s'approche. Vous vous êtes arrêté bien longtemps. J'ai craint pour vous. Qui amenez-vous donc? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Le roi va vous demander bientôt. » Telles étaient les questions rapides du jeune conseiller que l'inquiétude avait fait sortir de son calme accoutumé ce que n'avait pu faire le combat. « J'étais un peu blessé. J'amène un prisonnier et je songeais au roi. Que peut-il me vouloir, mon ami? Que faut-il faire s'il veut m'approcher du trône? Il faudra plaire? À cette idée, vous l'avouerai-je, je suis tenté de fuir et j'espère que je n'aurai pas l'honneur fatal de vivre près de lui. Plaire, que ce mot est humiliant! Obéir ne l'est pas autant. Un soldat s'expose à mourir et tout est dit. Mais que de souplesse, de sacrifice de son caractère, que de compositions avec sa conscience, que de dégradation de sa pensée dans la destinée d'un courtisan. Ah, de tout, mon cher de tout, je ne suis pas fait pour la cour, je le sens, quoique je ne l'ai vu qu'un instant. J'ai quelque chose de sauvage au fond du cœur que l'éducation n'a poli qu'à la surface. De loin, je me suis cru propre à vivre dans ce monde tout-puissant, je l'ai même souhaité, guidé par un projet bien chéri de mon cœur. Mais je recule au premier pas. La vue du cardinal m'a fait frémir. Le souvenir du dernier de ses crimes auxquels j'assistais m'a empêché de lui parler. Il me fait horreur, je ne le pourrai jamais. La faveur du roi a aussi je ne sais quoi qui m'épouvante, comme si elle devait m'être funeste. Je suis heureux de vous voir cet effroi. Il vous sera salutaire peut-être, reprit de Toux en cheminant. Vous allez entrer en contact et en commerce avec la puissance. Vous ne la sentirez pas, vous allez la toucher. Vous verrez ce qu'elle est et par quelle main la foudre est portée. Hélas, fasse le ciel qu'elle ne vous brûle pas. Vous assisterez peut-être à ces conseils où se règle la destinée des nations. Vous verrez, vous ferez naître ces caprices d'où sortent les guerres sanglantes, les conquêtes et les traités. Vous tiendrez dans votre main la goutte d'eau qui enfante les torrents. C'est d'en haut qu'on apprécie bien les choses humaines, mon ami. Il faut avoir passé sur les points élevés pour connaître la petitesse de celle que nous y voyons grande. Et si j'en étais là, j'y gagnerais du moins cette leçon dont vous parlez, mon ami. Mais ce cardinal, cet homme auquel il me faut avoir une obligation, cet homme que je connais trop par son œuvre, que sera-t-il pour moi? Un ami, un protecteur sans doute, répondit de Toux. Plutôt la mort mille fois que son amitié. J'ai tout son être et jusqu'à son nom même en haine. Il verse le sang des hommes avec la croix du Rédempteur. Quelles horreurs, dites-vous, mon cher? Vous vous perdrez si vous montrez au roi ses sentiments pour le cardinal. N'importe, au milieu de ces sentiers tortueux, j'en veux prendre un nouveau, la ligne droite. Ma pensée entière, la pensée de l'homme juste, se dévoilera au regard du roi, même s'il interroge, dût-il me coûter la tête. Je l'ai vu enfin, ce roi, que l'on m'avait peint si faible. Je l'ai vu, et son aspect m'a touché le cœur malgré moi. Certes, il est bien malheureux, mais il ne peut être cruel. Il entendrait la vérité. Oui, mais il n'oserait la faire triompher, répondit le sage de tout. Garantissez-vous de cette chaleur du cœur qui vous entraîne souvent par des mouvements subits et bien dangereux. N'attaquez pas un colosse tel que Richelieu sans l'avoir mesuré. Vous voilà comme mon gouverneur, l'abbé Quillet. Mon cher et prudent ami, vous ne me connaissez ni l'un ni l'autre. Vous ne savez pas combien je suis las de moi-même et jusqu'où j'ai jeté mes regards. Il me faut monter ou mourir. Quoi ? Déjà ambitieux ? S'écria de tout avec une extrême surprise. Son ami inclina la tête sur ses mains en abandonnant les rênes de son cheval et ne répondit pas. Quoi, cette égoïste passion de l'âge mûr s'est emparée de vous à 20 ans, Henri ? L'ambition est la plus triste des espérances. Et cependant, elle me possède à présent tout entier, car je ne vis que par elle, tout mon cœur en est pénétré. Ah, Saint-Marc, je ne vous reconnais plus. Que vous étiez différent autrefois. Je ne vous le cache pas, vous me semblez bien déchu. Dans ces promenades de notre enfance, où la vie et surtout la mort de Socrate faisaient couler de nos yeux des larmes d'admiration et d'envie, lorsque, nous élevant jusqu'à l'idéal de la plus haute vertu, nous désirions pour nous dans l'avenir ces malheurs illustres, ces infortunes sublimes qui font les grands hommes, quand nous composions pour nous des occasions imaginaires de sacrifices et de dévouements, si la voix d'un homme eût prononcé entre nous deux tout à coup le seul mot d'ambition, nous aurions cru toucher un serpent. De tout parler avec la chaleur de l'enthousiasme et du reproche. Saint-Marc continuait à marcher sans rien répondre et la tête dans ses mains. Après un instant de silence, il les ôta et laissa voir des yeux pleins de généreuses larmes. Il serra fortement la main de son ami et lui dit avec un accent pénétrant. « Monsieur de Thou, vous m'avez rappelé les plus belles pensées de ma première jeunesse. Croyez que je ne suis pas déchu, mais un secret espoir me dévore que je ne puis confier même à vous. Je méprise autant que vous l'ambition qui paraîtra me posséder. La terre entière le croira, mais que m'importe la terre. Pour vous, noble ami, promettez-moi que vous ne cesserez pas de m'estimer quelque chose que vous me voyez faire. Je jure par le ciel que mes pensées sont pures comme lui. » Eh bien, dit de tout, je jure par lui que je vous en crois aveuglément. Vous me rendez la vie. Ils se serraient encore la main avec effusion de cœur lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils étaient arrivés presque devant la tente du roi. Le jour était entièrement tombé, mais on aurait pu croire qu'un jour plus doux se levait, car la lune sortait de la mer dans toute sa splendeur. Le ciel transparent du midi ne se chargeait d'aucun nuage et semblait un voile d'un bleu pâle semé de paillettes argentées. L'air encore enflammé n'était agité que par le rare passage de quelques brises de la Méditerranée et tous les bruits avaient cessé sur la terre. L'armée fatiguée reposait sous les tentes dont les feux marquaient la ligne et la ville assiégée semblait accablée du même sommeil. On ne voyait sur les remparts que le bout des armes des sentinelles qui brillaient aux clartés de la lune ou le feu errant des rondes de nuit. On n'entendait que quelques cris sombres et prolongés de ces gardes qui s'avertissaient de ne pas dormir. C'était seulement autour du roi que tout veillait, mais à une assez grande distance de lui. Ce prince avait fait éloigner toute sa suite. Il se promenait seul devant sa tente et, s'arrêtant quelquefois à contempler la beauté du ciel, il paraissait plonger dans une mélancolique méditation. Personne n'osait l'interrompre, et ce qui restait de seigneur dans le quartier royal s'était approché du cardinal, qui, à 20 pas du roi, était assis sur un petit tertre de gazon façonné en banc par les soldats. Là, il essuyait son front pâle. Fatigué des soucis du jour et du poids inaccoutumé d'une armure, il congédiait par quelques mots précipités, mais toujours attentifs et polis, ceux qui venaient le saluer en se retirant. Il n'avait déjà plus, près de lui, que Joseph, qui causait avec Laubardemont. Le cardinal regardait du côté du roi, si, avant de rentrer, ce prince ne lui parlerait pas, lorsque le bruit des chevaux de Saint-Mars se fit entendre. Les gardes du cardinal le questionnèrent et le laissèrent s'avancer, sans suite et seulement avec deux toux. « Vous êtes arrivé trop tard, jeune homme, pour parler au roi, » dit d'une voix aigre le cardinal-duc. « On ne fait pas attendre sa majesté. » Les deux amis allaient se retirer lorsque la voix même de Louis XIII se fit entendre. Ce prince était en ce moment dans une de ces fausses positions qui firent le malheur de sa vie entière. Irrité profondément contre son ministre, mais ne se dissimulant pas qu'il lui devait le succès de la journée, ayant d'ailleurs besoin de lui annoncer son intention de quitter l'armée et de suspendre le siège de Perpignan, il était combattu entre le désir de lui parler et la crainte de faiblir dans son mécontentement. De son côté, le ministre n'osait lui adresser la parole le premier, incertain sur les pensées qui roulaient dans la tête de son maître et craignant de mal prendre son temps, mais ne pouvant non plus se décider à se retirer. Tous deux se trouvaient précisément dans la situation de deux amants brouillés qui voudraient avoir une explication lorsque le roi saisit avec joie la première occasion d'en sortir. Le hasard fut fatal au ministre. Voilà à quoi tiennent ces destinées qu'on appelle grandes. « N'est-ce pas, monsieur de Saint-Mars, dit le roi d'une voix haute, qu'il vienne, je l'attends. » Le jeune des Fiat s'approcha à cheval et, à quelques pas du roi, voulut mettre pied à terre. Mais à peine sa jambe eut-elle touché le gazon qu'il tomba à genoux. « Pardon, sire, dit-il, je crois que je suis blessé. » Et le sang sortit violemment de sa botte. De Toux l'avait vu tomber et s'était approché pour le soutenir. Richelieu saisit cette occasion de s'avancer aussi avec un empressement simulé. « Ôtez ce spectacle des yeux du roi, » s'écria-t-il. « Vous voyez bien que ce jeune homme se meurt. »« Point du tout, » dit Louis, le soutenant lui-même. « Un roi de France sait voir mourir et n'a point peur du sang qui coule pour lui. Ce jeune homme m'intéresse. Qu'on le fasse porter près de ma tante et qu'il ait auprès de lui mes médecins. Si sa blessure n'est pas grave, il viendra avec moi à Paris, car le siège est suspendu, monsieur le cardinal. J'en ai vu assez. » D'autres affaires m'appellent au centre du royaume. Je vous laisserai ici commander en mon absence. C'est ce que je voulais vous dire. » À ces mots, le roi rentra brusquement dans sa tente, précédé par ses pages et ses officiers tenant des flambeaux. Le pavillon royal était fermé, Saint-Mars emporté par De Toux et ses gens, que le duc de Richelieu, immobile et stupéfait, regardait encore la place où cette scène s'était passée. Il semblait frappé de la foudre et incapable de voir ou d'entendre ceux qui l'observaient. Laubardemont, encore effrayé de sa mauvaise réception de la veille, n'osait lui dire un mot, et Joseph avait peine à reconnaître en lui son ancien maître. Il sentit un moment le regret de s'être donné à lui et crut que son étoile pâlissait. Mais songeant qu'il était haï de tous les hommes et n'avait de ressources qu'en Richelieu, il le saisit par le bras et, le secouant fortement, lui dit à demi-voix, mais avec rudesse. « Allons donc, monseigneur, vous êtes une poule mouillée, venez avec nous. » Et, comme s'il l'eût soutenu par le coude, mais en effet l'entraînant malgré lui, aidé de Laubardemont, il le fit rentrer dans sa tente comme un maître d'école fait coucher un écolier pour lequel il redoute le brouillard du soir. Ce vieillard prématuré suivit lentement les volontés de ses deux acolytes et la pourpre du pavillon retomba sur lui.